Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier parce que tu nous donnes ta parole, parce qu'elle est vivante par elle-même. Et Seigneur, si on la libère et qu'on la laisse réellement nous parler, eh bien elle vient nous atteindre dans notre vie, nous atteindre dans nos situations. Et on veut te remercier, Seigneur, de nous l'avoir confiée, parce qu'elle vient nous donner beaucoup de choses qui sont utiles pour notre vie. Merci, Seigneur, pour la réalité qui est en elle. Amen. Voilà, il y a certaines fois dans la vie où il y a des situations que nous vivons qui sont des situations horrifiantes, qui sont des situations qui sont violentes, qui viennent nous bouleverser, transformer notre être intérieur en profondeur. Et dans ces moments-là, nous avons besoin de réconfort, nous avons besoin d'entendre une parole qui vienne nous apaiser et nous dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que tous ces événements qui sont autour de nous. Et c'est ce qui se passe pendant la vie du prophète Ézéchiel. Et j'aimerais prendre un texte que l'on trouve dans le chapitre 39 du prophète Ézéchiel. En fait, le thème de cette prédication donc, portera sur les deux chapitres 38 et 39 du prophète Ézéchiel. Et je prendrai donc, à cause de la longueur du texte, quelques versets donc dans le chapitre 39 du prophète Ézéchiel. Alors tout d'abord à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. « Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter les extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. » Au verset 8, « Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors, les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. » Au verset 21, cette fois-ci, « Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu, dès ce jour et à jamais. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité. » À cause de ses infidélités envers moi, aussi, je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. » Et au verset 27, « Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. » Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Alors le prophète Ézéchiel est un prophète qui est quand même assez bizarre dans sa façon de fonctionner. Certains ont même prétendu que c'était un prophète qui avait un certain trouble parce qu'il a certaines attitudes et il a certaines paroles qui, des fois, peuvent paraître un peu bizarres. Alors tout d'abord, l'une de ses premières visions, quand il raconte une roue qui est pleine d'yeux au dedans et au dehors. C'est une parole, en tout cas, qui, lorsqu'on est en dehors du contexte biblique, peut sembler assez déroutante, assez énigmatique. Et ce prophète continue à être énigmatique quand, à un moment, il va même manger des excréments de bœufs. C'est vraiment un prophète qui semble assez spécial à première vue quand on se tient extérieur à son contexte. Mais ce qui nous aide un petit peu mieux à comprendre le prophète Ézéchiel, c'est de comprendre la période dans laquelle il se trouve. Cette période est une période de troubles particulièrement grande, de déchirements politiques, de grosses interrogations pour le peuple de Juda. Et dans la vie du prophète Ézéchiel, il y a un événement clé qui va modifier le discours de ce prophète. C'est que jusqu'au chapitre 33, le prophète Ézéchiel est un prophète qui vient à contre-courant des espérances de Juda. Tout le monde croit jusqu'au chapitre 33 que Dieu va intervenir et qu'il va empêcher la diaspora, le départ du peuple de Juda loin d'Israël. Tout le monde croit, tout le monde veut porter encore une certaine espérance dans son cœur. Et le prophète Ézéchiel, lui, est une personne qui vient à contre-courant de cette pensée populaire en disant « Repentez-vous, parce que sinon, la sanction de Dieu va tomber sur vous. » Et ce qui devait arriver arriva, et au chapitre 33, on apprend que Jérusalem tombe entre les mains des nations, et alors que le prophète Ézéchiel est sur le territoire de Babylone, eh bien, il y a des personnes qui viennent de Jérusalem en disant « Maintenant, il n'y a plus aucune espérance, Jérusalem est tombée entre les mains des nations, Jérusalem est une ruine. » Et il y a de nouveau un phénomène bizarre chez le prophète Ézéchiel. C'est à partir de ce moment où le peuple est donc dans un découragement total que tout d'un coup le prophète Ézéchiel vient apporter une parole de réconfort, d'encouragement. Et dans cette période où le prophète Ézéchiel change son discours et qu'il apporte cette parole d'encouragement, nous trouvons ces deux chapitres, les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, qui viennent nous parler du jugement qui est apporté contre cette nation assez énigmatique qui s'appelle Gog. Maintenant que je vous ai donné un petit peu le contexte dans lequel se trouve ce discours du prophète Ézéchiel, j'aimerais vous renvoyer une expérience que vous avez sans doute déjà vécue, si vous avez déjà cheminé depuis un petit moment avec le Seigneur. Il y a certains moments où dans notre vie, il nous semble qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus d'espérance. Il y a certaines fois où notre cheminement dans la foi chrétienne se fait avec des gros points d'interrogation dans la tête, et on se dit, mais pourquoi Dieu me fait passer par là? Pourquoi, alors que la Bible est un livre qui est plein de promesses, plein d'espérances, je suis obligé de passer par un moment où je ne comprends pas ce qui m'arrive? Et si l'on vient vous voir en vous disant, est-ce que vous croyez que Dieu existe? Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité des morts? Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité? Eh bien, vous allez dire, oui, je le crois. Je crois que Dieu est tout-puissant, je crois que Dieu est capable de tout faire, mais malgré tout, des fois, j'ai quand même l'impression d'être une exception et que Dieu veut faire plein de miracles pour tout le monde, mais j'ai l'impression certaines fois que ça marche pour tout le monde, sauf pour moi. Et c'est un petit peu ce ressenti qu'il y a à l'intérieur du cœur de ces déportés qui sont à Babylone. Le peuple d'Israël est un peuple à qui il a été fait tout un ensemble de promesses à travers tout l'ensemble de l'Ancien Testament, et puis tout d'un coup, toutes les promesses semblent totalement anéanties. Tout sur quoi les espérances du peuple d'Israël semblaient pouvoir reposer sont totalement anéanties, elles ne sont plus qu'un vague souvenir. Il n'y a aujourd'hui plus de pays, alors que la notion de pays pour Israël est quelque chose de très important selon l'Ancien Testament. Il n'y a plus de roi sur le trône. Le roi a été détrôné, il n'y a plus de dynastie, donc ça veut dire hypothétiquement, plus de Messie qui doit arriver. Il n'y a plus de temple, donc c'est-à-dire plus de culte qui est offert à Dieu. Et même l'idée d'un retour en terre de Juda semble totalement à oublier, parce que la nation qui les a déportés est incroyablement plus forte et plus puissante que cette petite armée de paysans qui osait se dresser contre l'armée babylonienne. Et c'est donc dans ce cadre que le peuple a besoin d'être réconforté de la part de Dieu. Et c'est à ce moment-là que la parole de Dieu est adressée au prophète Ézéchiel, et cette parole devient un véritable encouragement pour le peuple de Juda, qui par cette parole de l'Éternel vient entendre dire que non seulement il viendra récupérer le pays qu'il a dû quitter, mais bien plus que cela, le peuple qui est venu l'entraîner à la déportation sera jugé beaucoup plus sévèrement et beaucoup plus violemment que le peuple d'Israël n'a été amené à subir une telle contrainte. Et Ézéchiel ne lésine pas sur l'ensemble des détails qui nous sont donnés dans l'ensemble de ces deux chapitres sur la façon dont Dieu va retourner la situation. C'est-à-dire que par le jugement apporté sur cette nation de Gog, Dieu va tout d'abord montrer sa souveraineté en toute situation. Même dans ce moment où il semble que Dieu a totalement abandonné son peuple, eh bien on se rend compte que Dieu est bien là et qu'il c'est bien lui qui tient l'ensemble des rênes de l'histoire de son peuple. Et ce roi de Gog qui nous est présenté dans ce chapitre 38 à la tête d'une armée si forte, si puissante, tout d'un coup nous est présenté comme se déplaçant par la volonté de Dieu. Et c'est assez intéressant de voir que le début du chapitre 38 nous montre la situation telle qu'elle se présente de façon visible et apparente. Il nous est parlé d'une armée qui sort avec tout son apparat. On voit tout un ensemble de peuples qui vient rejoindre cette armée. Cette armée avance fièrement. Rien ne semble pouvoir la freiner, l'arrêter. Et quand on lit le texte, je vais dire, on aurait même envie d'avoir peur rien qu'à la lecture de ce texte. Cette armée, elle paraît vraiment forte, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ça ressemble un petit peu, vous savez, quand on regarde les peuplums des années 60, vous savez, quand on voit ces armées, par exemple les armées romaines qui avancent, et vous avez donc ces caméras qui est là, et vous avez une forêt humaine face à vous, elle remplit l'écran, elle est en profondeur, vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, et puis tout d'un coup, il y a cette parole du prophète Ézéchiel qui arrive, un petit peu comme une seconde caméra qui vient, mais qui cette fois-ci ne vient plus prendre la vision de face, mais vient avec beaucoup plus de hauteur observer la situation. Elle ne nous cache pas la réalité. Il y a bien une armée qui avance, mais tout d'un coup, avec cette vision prophétique, on se rend compte que cette armée se dirige vers son sort, et tout d'un coup, cette armée qui marchait le torse bombé est ridiculisée parce qu'on voit par avance ce qui va entraîner sa chute. Mais ce roi de Gog, tout d'un coup, nous est présenté comme un véritable pantin. Il marchait le torse bombé, il était fier de lui-même, et tout d'un coup, on se rend compte que ce n'est qu'un acteur, et qu'il n'est inscrit que dans un scénario qu'il n'a même pas réalisé lui-même. Et cette vision est encore terriblement humiliante pour lui dans la description qui nous est faite, parce qu'on a l'impression qu'il est comme un chien qui est tenu en laisse. Il ne dirige pas son propre sort. À aucun moment, il n'est dit que c'est lui-même qui prend une seule initiative. Et dès les débuts du chapitre 38, et même au début du chapitre 39, à un moment, nous avons trois verbes qui sont mis côte à côte pour nous dire la façon dont ce roi de Gog est tenu en laisse par Dieu. Il est dit « Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter ». Ce n'est pas Gog qui oriente cette armée, mais c'est bien Dieu qui impose ses conditions à cette armée. Et ce que Gog ne peut contrôler, c'est son extermination totale. Et pour ceux qui pensent que dans la Bible, il y a plein de textes, vous savez, un petit peu naïfs, un petit peu paisibles, un petit peu, vous savez, un petit peu comme si on était dans le monde des bisounours, eh bien le texte d'Ézéchiel est d'une violence assez déroutante. Et par deux fois, il y a dans ces deux chapitres l'utilisation du chiffre 7 pour marquer la plénitude de la sanction. Il nous est dit que toutes les armes et tous les soldats de cette armée sont réduits à néant. Et si cela ne suffisait pas, la victoire n'est pas totale, mais elle est plus que totale, parce que même après 7 mois, il y a encore des cadavres qui ne sont pas enterrés. C'est assez violent hein, comme façon de présenter les choses. Et pour couronner le tout, l'armée de Gog, qui s'était comportée comme des bêtes sauvages et qui avait usé d'une violence extraordinaire, et lorsque l'on lit les textes anciens, c'était assez violent hein, la façon dont ces armées pouvaient rentrer dans des pays, envahir des pays et détruire des cultures et des civilisations. C'était très très violent, ces personnes se conduisaient comme des animaux, allaient éventrer des femmes enceintes, allaient tuer des enfants, un peu de façon similaire à ce que Daesh peut faire aujourd'hui. Et tout d'un coup, les cadres de l'armée de Gog, qui s'étaient comportés comme des animaux dans leurs sanctions, sont cette fois-ci traités comme des animaux qui sont offerts en sacrifice aux bêtes des champs et aux oiseaux du ciel. Et ce qui est dégoûtant, c'est qu'il n'est pas marqué une seule fois dans ce texte qu'il y ait une intervention humaine dans la sanction que Dieu impose. C'est Dieu qui s'arroge toute la gloire dans la façon dont il va frapper cette nation. Tous ces deux chapitres sont là pour marquer la totale souveraineté de Dieu dans un moment où plus personne ne pouvait imaginer qu'il y avait un espoir et une espérance. Et l'armée ennemie n'a aucune répartie, c'est le Seigneur seul qui agit. Il désarme Gog, il l'amène sur les montagnes d'Israël, il le fait chuter, lui, toutes les troupes et tous les peuples qui sont avec lui. C'est-à-dire que ce passage devient une véritable espérance pour des personnes qui n'avaient plus aucun espoir. Et puis, ce chapitre continue, et cette fois-ci, il ne s'intéresse plus seulement aux personnes qui sont acteurs de cette scène, mais il vient dire aussi qu'il y a des personnes qui sont spectateurs de cette situation. Et ces spectateurs sont de deux ordres. Il y a tout d'abord ces personnes qui sont extérieures à la situation, totalement extérieures, ce sont les nations autres que Gog, qui sont là et qui viennent contempler ce que Dieu est en train d'accomplir. Et par le destin que Dieu est en train d'accomplir sur cette nation de Gog, il vient interroger ces nations sur ce qui se passe, et il vient interpeller ces nations en leur montrant que, tout d'abord, le jugement de la déportation qui était adressé à Israël est une sanction qui est juste. Israël a péché, et il mérite la sanction qui lui est arrivée. Et c'est bien parce qu'Israël a péché qu'il part sur ce territoire de Babylone. Toutes les nations sont témoins, et cela donne une véritable dimension et une certaine importance au jugement qui est apporté vis-à-vis de ses croyants. Elle vient montrer qu'Israël avait un rôle de témoin, et que s'il n'est pas rentré dans ce rôle de témoin, qu'il y en a des répercussions. Tout malentendu est dissipé. S'il y a la dispersion et s'il y a la diaspora, ce n'est pas de la faute de Dieu, mais c'est bien de la faute du peuple d'Israël qui est considéré comme coupable. Mais ce rôle de témoignage ne s'arrête pas là. Dieu vient encore montrer que non seulement il est juste dans la sanction qu'il apporte, mais il vient montrer que son amour et sa miséricorde vient dépasser sa justice, parce que les choses ne s'arrêtent pas là. Mais si Israël se repent et qu'il rentre de nouveau dans son rôle de témoin, de la même façon qu'il était déporté, eh bien aussi aisément Dieu le ramènera dans la terre qu'il avait promis pour cette nation. Dieu démontre ainsi à la fois sa sainteté et sa souveraineté devant la terre entière dans l'acte de jugement. Et donc ce rappel à l'ordre donc ne s'adresse pas seulement vis-à-vis des nations, mais il vient aussi interpeller cette nation qui avait ce rôle de témoin, Israël. Et elle vient lui rappeler qu'elle avait un rôle de responsabilité, et cette responsabilité, c'était celle de se tenir sanctifié pour pouvoir montrer que Dieu a un peuple et qu'il veut que ce peuple soit un véritable témoin par son attitude et que ce peuple doit se comporter de façon différente. C'est donc un appel à la sainteté que Dieu vient adresser à ses enfants. Dieu désire un peuple qui montre par son comportement, par son éthique, par sa morale, par sa piété, qu'il appartient à quelqu'un de différent que ce monde. Et de même que Gog avait été conduit en Israël pour son jugement, eh bien de nouveau, les déportés seront amenés de nouveau en Israël s'ils changent de conduite. Alors on peut se questionner vis-à-vis de ce texte, parce que c'est, comme je vous disais, un texte qui est assez énigmatique, parce qu'il nous parle de nations qui sont très éloignées de nous. Alors tout d'abord, cette nation de Gog, il n'y a pas eu de nation qui s'appelait réellement Gog, en tout cas pas dans cette période pendant laquelle vit le prophète Ézéchiel. Et c'est le verset 29 qui vient nous dire pour quelle période s'adresse ce texte. Le verset 29 nous dit que c'est lorsque Dieu aura répandu son esprit que ces images seront là pour nous parler. Et je crois donc qu'il nous faut voir un dépassement au travers de ce texte. Ce texte vient nous parler pour nous, pour notre génération, puisque l'Ancien Testament et le Nouveau Testament viennent nous dire que, avec l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte, eh bien ce texte vient prendre tout son sens. Cette nation de Gog, c'est une nation qui est bien réelle, mais ce n'est pas une nation qui est issue de la chair, ce n'est pas une nation qui est un pays à proprement parler, ou en tout cas je ne pense pas dans un premier temps, peut-être, sans doute, dans un temps tout à la fin. Et de même, je crois que dans cette nation d'Israël, il y a beaucoup plus qu'Israël qu'il faut voir, mais elle est là pour nous interpeller, nous, en tant qu'Église. Cette parole de la souveraineté de Dieu, elle nous est adressée en tant que croyants. Elle nous est adressée à nous qui sommes réunis. Et je suis assez émerveillé de voir que, après la chute de Jérusalem, eh bien, Ézéchiel vient interpeller ceux qui sont autour de lui en disant « Mais, mes amis, l'Ancien Testament, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une ombre de ce que nous attendons. Jérusalem, on s'en moque éperdument. Le temple, on s'en moque éperdument. Ce n'est qu'une ombre des choses qui sont à venir. Mais la réalité, elle est spirituelle. Dieu nous appelle à être un peuple, un véritable peuple, qui n'est pas attaché à un pays, qui n'est pas attaché à un roi terrestre, mais qui est attaché à une réalité spirituelle, qui est attaché à un roi céleste. Ainsi, Ézéchiel, dans ses chapitres, nous parle bien d'une espérance. Et cette espérance, c'est celle que le Christ nous donne par son Église. Ce peuple de déportés, eh bien c'est nous. Aujourd'hui, nous sommes encore en déportation, dans l'attente d'une réalité encore bien plus grande, celle de la venue de la Jérusalem céleste ici-bas. Ce qui veut dire que nous pouvons encore aujourd'hui vivre des périodes de troubles, des périodes d'angoisse, des périodes d'incompréhension. Et oui, certaines fois, dans notre marche chrétienne, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Certaines fois dans notre marche chrétienne, il y a des choses où nous marchons avec ces gros points d'interrogation, où il nous semble que Dieu nous a rejetés, nous a abandonnés, mais ce texte vient nous dire que ce n'est pas le cas. La coalition internationale qui était représentée par ces peuples du Nord dans notre passage est située dans la toute fin des temps. Et je crois que si ce passage vient nous parler d'un temps qui est encore à venir, celui où le Christ va venir paraître ici-bas et qu'il va montrer de façon physique sa présence auprès des nations, eh bien je crois que dès maintenant, par l'effusion de l'Esprit sur son Église, la Bible nous révèle que nous sommes entrés dans la fin des temps et que ce triomphe que nous avons sur les armées ennemies, nous le possédons dès maintenant. Ainsi, il y a un double effet dans l'encouragement qui est apporté dans ce message. Il y a un effet qui est valable pour aujourd'hui. C'est un appel à l'Église qui doit faire confiance à Dieu malgré l'apparence présente de la situation. D'autres sont passés par le combat, d'autres sont passés par l'épreuve, mais cela n'empêche pas Dieu de rester au règne de notre vie. Et sans nier la dimension déjà présente de la réalité de cette victoire de Dieu pour notre vie, il y a encore une réalité qui est encore à attendre. Celle de la venue de la Jérusalem céleste ici-bas. C'est la face cachée de l'iceberg. Aujourd'hui, nous vivons déjà dans la présence de Dieu, nous vivons déjà dans la pleine sécurité que vient nous apporter l'Esprit, mais bientôt, elle sera encore beaucoup plus présente. Et de même que le peuple d'Israël qui demeurait dans la déportation, nous sommes encore dans l'attente de la révélation totale. L'épreuve continue à sévir, mais cette parole nous dit que nous pouvons encore espérer, que nous pouvons encore croire que notre Seigneur ne tardera pas. Bientôt il va venir, il va nous délivrer totalement de toutes nos angoisses, de toutes nos craintes. Mais déjà, par avance, nous pouvons, comme Ézéchiel, professer et confesser que le Christ dirige totalement notre vie. Ce texte affirme donc notre confiance totale que nous pouvons avoir en Jésus. Je crois que ce texte nous invite à prendre aussi des considérations pratiques pour notre vie. De même que le peuple d'Israël devait se rendre compte que ces choses étaient arrivées pour sa sanctification, eh bien l'Église aussi a une responsabilité vis-à-vis de cette confiance que nous devons avoir en Dieu. Nous ne devons pas nous relâcher dans notre sainteté. Nous ne devons pas nous relâcher dans la conduite que nous avons en tant que croyants. Si le Christ règne dès maintenant, eh bien nous sommes ses sujets et nous devons montrer que nous sommes son armée dès maintenant, par l'attitude que nous avons, par le témoignage que nous pouvons porter autour de nous. Oui, les situations d'angoisse et de doute sont autour de nous, mais cela ne doit pas nous décourager, mais bien au contraire, nous encourager, et nous pouvons montrer, comme le prophète Ézéchiel, que nous pouvons avoir un message qui est différent que celui du peuple qui est plein de doutes autour de nous. Nous sommes pleins d'une assurance, pleins d'une espérance, et c'est parce que nous avons cette espérance que nous pouvons témoigner que le Christ vit en nous aujourd'hui, que nous avons un roi qui n'est pas un roi selon la chair, que nous ne sommes pas selon des lois qui sont des lois selon la chair, mais des lois qui sont selon l'esprit. Alors oui, nous avons des situations de doute, de crainte, mais cela ne doit pas nous empêcher d'agir selon le modèle, selon la loi du royaume. C'est en nous soumettant à l'esprit qui vient habiter en nous que nous pouvons vivre et exercer cette éthique qui est différente. J'aimerais terminer par un encouragement qui est dans la construction même du livre d'Ézéchiel. Comme je vous le disais, le livre d'Ézéchiel nous parle de ce jugement qui est apporté sur cette nation de Gog, alors que le peuple est encore en déportation. Et donc, ce chapitre 39 s'adresse encore au peuple alors qu'il est en déportation. Et puis, tout de suite après le chapitre 39, il y a les 9 derniers chapitres du livre d'Ézéchiel, chapitres 40 à 48, où tout d'un coup, Ézéchiel, eh bien, il ne s'intéresse plus du tout à la situation présente. Et Ézéchiel vient nous parler d'un temple qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus merveilleux que le temple qu'il y a pu y avoir à Jérusalem auparavant. Et cette fois-ci, Ézéchiel vient nous dire, oui, vous êtes encore en déportation, mais bientôt, le temple céleste va venir ici-bas. C'est un temple beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, où le péché n'aura plus sa place, où le culte que vous pourrez offrir est un culte plein, entier, que vous pourrez offrir à Dieu. Et frères et sœurs, je crois que ces chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel sont là pour nous parler. Oui, nous sommes dans un temps d'épreuve, oui, nous sommes dans un temps où nous pouvons avoir des gros questionnements, mais ça ne se termine pas comme ça. Regardons, projetons-nous par avance, comme Ézéchiel, bientôt nous serons rétablis dans cette pleine assurance, dans cette pleine assurance, dans cette pleine union avec le Christ. Nous n'avons rien à redouter parce que le Christ règne, c'est une certitude. Nous pouvons marcher dans une pleine confiance. Je vais m'arrêter là. J'aimerais terminer ce temps par un temps de prière. Amen. Seigneur notre Dieu, nous vivons effectivement des temps où nous pouvons être dans la tristesse, où nous pouvons encore voir les larmes qui coulent de nos yeux. Nous pensons aussi particulièrement à des frères et sœurs qui au Proche-Orient vivent plus fortement, plus concrètement, cette réalité de la persécution. Mais même nous, ici, présentement, il y a des situations que nous ne comprenons pas, qui nous sont des situations qui sont difficiles. Mais Seigneur, tu restes aux commandes. C'est une réalité. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole d'Ézéchiel, qui vient nous dire que tu es là, Jésus, que tu es présent, que tu chemines avec nous, et que nous n'avons rien à redouter, rien à craindre. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que, eh bien, tu es déjà présent à nos côtés aujourd'hui. Tu nous appelles à nous sanctifier, tu nous donnes ton esprit pour nous sanctifier, pour marcher avec toi. Mais aussi, Seigneur, nous voulons porter, dès maintenant, notre assurance sur ce temps si merveilleux que tu prépares. Nous serons unis à toi. Seigneur, ma prière, c'est que tu gardes chacun de nous dans cette vision que tu règnes et que tu régneras pleinement et que tu reviens bientôt. Merci Seigneur pour cette assurance et cette espérance que tu nous donnes. Amen.
Amen. Gloire à Dieu.